Bonsoir, comment allez-vous? Peut-être êtes-vous sur le chemin du retour du pont du 11 novembre. C'est l'armistice de cette guerre dite « grande » qui nous vaut un jour de congé. Nous savons grâce aux témoignages, lisez les croix de bois de Dorgelès, c'est une merveille. Nous savons grâce aux témoignages que cette guerre fut effroyable. Vous êtes très nombreux, tous âges confondus, à poser la question de la guerre. Pourquoi? Nous y avons répondu de multiples façons, avec des historiens, des philosophes, des psys. Il faut bien reconnaître qu'aucune réponse, aussi brillante soit-elle, n'arrive à apaiser ce questionnement. Pourquoi y a-t-il des méchants? Tous les gens sont-ils capables d'être méchants? Faut-il être méchant à son tour pour se protéger? Cette semaine, au marché, une dame qui avançait face au soleil, manifestement éblouie, a heurté avec son pied la roue d'une charrette de marché d'un monsieur qui arrivait en face. Surprise d'abord, elle s'est arrêtée, puis s'est excusée. Et là, le monsieur, contre toute attente, l'a copieusement insultée. Très calmement, elle s'est à nouveau excusée et puis a rajouté « Vous aussi, vous pourriez vous excuser ». Je me suis demandé pourquoi ça avait tourné vinaigre. Pourquoi cet homme était-il si agressif? Pourquoi n'a-t-il pas réalisé que si lui avait le soleil dans le dos, les gens en face l'avaient dans l'œil? Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas répondu « Ben non, c'est pas grave, en souriant, et même on peut rêver, je vous offre un café ». Oui, pourquoi? Cette attitude belliqueuse, hélas, elle est partout, dans les familles, les écoles, les entreprises, les États. Que faire? Peut-être se réparer soi-même le mieux possible pour éviter de se venger sur ceux qui n'y sont absolument pour rien.
Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir depuis quand la guerre existe. Merci, au revoir.
Clément, c'est Claude Quettel qui va te répondre.
Eh bien, Clément, je te salue et je commence par te signaler ce que tu sais déjà peut-être, c'est que en latin, clemens, qui a donné Clément, veut dire bon, intelligent et doux. C'est donc bien que tu poses cette question à propos des guerres. Je suis au désespoir de dire qu'elle existe depuis toujours. Depuis que l'homme est homme. On a vécu longtemps sur l'idée que l'homme de la préhistoire était un homme pacifique, qu'il avait déjà assez à faire, à se coltiner avec les mammouths pour ne pas prendre le temps de se battre et de tuer son voisin. Ben non, pas du tout. Il a des armes pour chasser, et quand on a des armes pour chasser, ben des fois on s'en sert aussi pour faire la guerre. Sur les squelettes qu'on retrouve, il y a des marques, des traces, de coups de hache, de flèches, dont il y a même des fois des pointes de flèches qui sont fichées dans la colonne vertébrale. Et on sait comme ça que des hommes se sont fait tuer, non pas en chassant et en se faisant piétiner par l'éléphant de service, mais en se faisant tuer par ses congénères qui se disputent peut-être leur réserve de nourriture, par exemple, ou une caverne un peu plus confortable que celle des autres.
Quelle est la différence, Claude Quettel, entre une guerre et, j'allais dire, entre une querelle de famille? Parce qu'après tout, il s'est peut-être battu avec son frère.
C'est une bonne question. Moi, je crois que ceci a tout simplement conduit à cela. Alors, je ne pense pas qu'il y ait guerre, des batailles, des scènes de ménage préhistoriques. Alors là, on voit pas très bien à quoi ça peut ressembler. Mais oui, il y a eu ça. Mais je pense que ce sont des tribus, des familles très élargies, qui sont tout de même très soudées et qui ont maille à partir avec celle d'à côté. Et les guerres ont commencé comme ça, parce que on est sur un territoire très réduit. Mais très rapidement, le territoire s'agrandissant, la guerre va devenir beaucoup plus une guerre entre d'abord assemblées de tribus, et puis la civilisation s'en mêlant, eh bien ça va devenir une guerre finalement entre, on va pas dire encore nations, mais entre cités, entre territoires différents. Alors ce qui est amusant aussi, c'est de voir comment l'intelligence de l'homme, qui ne fonctionne pas dans tous les compartiments, fonctionne très bien dès qu'il s'agit de tuer son voisin, et notamment comment très vite les armes vont faire des progrès. Au début, l'arme, c'est simplement, vous savez, vous prenez un silex, et puis bon, vous en servez comme d'une masse. Et très très vite, l'homme préhistorique invente l'arme à lancer. Une fronde, un bâton à lancer. Parce que ça donne au projectile une beaucoup plus grande force et une beaucoup plus grande portée. Et puis, l'invention suprême, en attendant les armes à feu, c'est l'arc. L'arc et la flèche. Alors, ça va servir, bien évidemment, pour la chasse. Et puis, bien, puisque ça sert à la chasse, pourquoi est-ce que ça va pas non plus servir à coloniser le voisin et à lui voler ses réserves, voire lui voler ses filles et ses femmes? Très, très vite, on commence, par exemple, à édifier des fortifications. On voit aussi...
Depuis quand les fortifications le...
Dès la fin de la préhistoire, il y a des fortifications. Mais alors, on a une vision, nous, de la fortification un petit peu comme un château du Moyen-Âge. Là, ce sont des fortifications beaucoup plus simples.
C'est des fossés.
La première fortification, c'est simplement de monter un muret de cailloux devant votre caverne. Ça commence comme ça. Mais ça permet quand même de mieux défendre l'entrée en cas d'attaque surprise. Parce que très vite aussi... On met au point des tactiques, de la ruse. Tout ça commence à se mettre en place. Vous voyez, l'homme de Cro-Magnon n'était pas aussi pacifique que ce qu'on a pu dire.
L'historien Claude Quettel est connu pour son Histoire de la folie, qui est un livre de référence, mais j'ai envie de vous citer celui-ci, le petit livre de l'histoire du XXe siècle, qui est édité chez First. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, vous entendrez cette question. Il y a Napoléon Ier, Napoléon III, mais qui était Napoléon II ? Pourquoi est-il interdit de manger des chewing-gums à l'école ? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Gabin, j'ai 10 ans, et j'aimerais savoir de quand date le premier saxophone, qui l'a inventé et de quelle matière est-il fait ? Et est-ce qu'il continue à évoluer ? Merci de me répondre.
C'est nous qui te remercions, Gabin, pour ta question qui est précise et complète. Claire Delamarche, oh, ça fait un moment qu'on vous connaît au Petit Bateau. Vous êtes musicologue, vous êtes conservatrice de l'orgue à l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Gabin parle de ce drôle d'instrument, le saxophone. Vous avez entendu, il vous a demandé pas mal de choses. Hein.
Alors oui, Gabin, en plus ta question, elle est facile. De quand date le premier saxophone ? La réponse est dans le nom. Si on regarde bien comment est fabriqué le nom du saxophone, on a la réponse. Je suis sûre que tu connais plein de mots qui finissent par « phone ». Phone, ça vient du grec, ça veut dire « phonie ». En grec, ça veut dire « la voix ». Et il y a beaucoup de mots qui terminent par « phone ». Par exemple, tu connais le téléphone, ça veut dire « pour parler loin ». Téléphone. Tu connais aphone peut-être quand t'as le rhume et puis que tu n'as plus de voix et que tu parles comme ça parce que t'as plus de voix. Et le saxophone, donc, c'est aussi phone, un instrument de musique, quelque chose qui parle. Alors là, ça parle pour donner de la musique. Donc on a la fin du mot et le début du mot, qu'est-ce que c'est ? Sax. Eh ben, c'est la réponse. C'est l'inventeur du saxophone. Il s'appelait Adolphe Sax. C'était un Belge. Sa passion, c'était d'améliorer les instruments de musique. Et il a voulu améliorer la clarinette. Et puis, il a eu l'idée, la clarinette était en bois, il a eu l'idée de faire une clarinette métallique, comme on avait fait pour la flûte qui était en bois, et puis on avait fait une flûte métallique qui était plus facile à jouer, qui était moins fragile. Il a fait la même chose, mais ça donnait un instrument trop différent pour qu'on puisse encore l'appeler clarinette. Alors, il l'a appelé saxophone. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question, en quelle matière est-ce ? C'est en métal. Exactement, c'est en laiton, qui est un mélange de cuivre et de zinc. Donc, on pourrait penser que c'est dans la famille des cuivres dans l'orchestre, avec la trompette, le cor, le trombone, le tuba. Comme ça vient de la clarinette, et la clarinette fait partie de la famille des bois, le saxophone est classé dans les bois.
Oh là là, alors ça, dites donc, si on cherche une question piège,
ah bah ça,
c'est
oui, c'est pour faire le malin à l'école, c'est vachement bien.
Ouais. Ah oui, donc le saxophone en métal fait partie des bois.
Voilà, parce qu'il est de la famille de la clarinette d'une certaine manière, même s'il est relativement différent.
Oui, c'est l'enfant de monsieur et madame Bois.
C'est ça. Alors, pour la dernière partie de ta question, est-ce qu'il continue à évoluer ? Pas tellement. Alors, il a évolué un petit peu à l'époque, parce que Adolphe Sax, il a déposé un brevet, c'est-à-dire qu'il a été dans un bureau, dire « voilà mon invention, je veux que personne ne la vole, que personne l'imite ».
Vous dites l'époque, Claire Delamarche ?
Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est 1846 le dépôt du brevet.
C'est récent.
Et à l'époque, c'était des brevets de 20 ans. Donc, pendant 20 ans, le saxophone est resté tel quel. Il a déposé le brevet pour 8 instruments, du plus grave au plus aigu, du très gros au tout petit.
Ce qui veut dire qu'il y a 8, dans la famille saxophone,
voilà.
Il y a 8.
Il y en a un qui est tout droit, comme un peu une flûte à bec, qui est petit. Et puis ça va jusqu'au très gros qui a un tuyau recourbé pour pas faire 10 mètres de long. Et donc, il a déposé ce brevet. Mais 20 ans après, le brevet est tombé. Donc, on avait le droit d'imiter l'instrument. Alors, il y a quelqu'un qui a imité l'instrument, qui a fait une petite modification pour redéposer un brevet. Mais ça riposté, il a encore fait une nouvelle invention. Il a ajouté une note dans le grave. Il a redéposé un brevet. Et puis, après ça, ça n'a plus bougé. Il y a eu des petites améliorations, forcément. Tout le monde cherche un peu, mais grosso modo, c'est resté le même instrument. Parce qu'il était déjà drôlement perfectionné. Comme ça a été inventé en France, il était belge, sax, mais il vivait à Paris. Donc le saxophone est devenu vraiment un instrument de la musique française. Il y a beaucoup de compositeurs français qui ont écrit pour le saxophone. Et puis après, d'autres. Mais la grande gloire planétaire du saxophone, ça a été le jazz. quand le saxophone a été pris par les premiers grands musiciens de jazz à partir de 1920 environ. Alors peut-être que c'est des noms qui vont te dire quelque chose, Gabin, que t'as entendu, par exemple Sidney Bechet, Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane, tout ça, c'est des grands musiciens de jazz qui ont pris le saxophone et qui lui ont donné en fait une gloire planétaire alors qu'il était parti de ce petit atelier de Monsieur Sax à Paris.
Avez-vous aimé les enfants? Savez-vous que vos parents, surtout vos grands-parents, ont dansé sur ce Tell Mama d'Etta James?
Les petits bateaux sur France Inter.
Tiens, voilà quelque chose qui est un peu en perte de vitesse, le chewing-gum.
Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 9 ans et j'aimerais bien savoir pourquoi on n'a pas le droit au chewing-gum à l'école. Au revoir.
Pourquoi on n'a pas le droit au chewing-gum à l'école? Ce n'est pas une chose que vous abordez dans votre livre, Mara Goyer, dans votre livre qui s'appelle « Collège brutal » édité chez Flammarion. Et vous êtes professeur au collège.
Alors, vois-tu Myriam, il y a tout un tas d'interdictions à l'école que tu ne dois pas forcément très bien comprendre. Parce que parfois, le but, c'est d'avoir des interdictions pour en avoir. Parce que comme ça, si on vous empêche de mâcher du chewing-gum, ben, ensuite vous n'irez pas casser une vitre, jeter la télé par terre, monter sur votre chaise. En interdisant plein de petites choses, on vous empêche de faire des grosses bêtises. Alors, chaque professeur a ses petites techniques. Par exemple, moi, je ne veux pas qu'on entre dans mon cours avec les mains dans les poches. D'autres veulent pas que les élèves utilisent un stylo quatre couleurs. D'autres veulent telle ou telle chose. C'est des petites techniques de professeurs d'interdire des choses toutes minimes que vous comprenez parfois pas pour vous empêcher de faire de grosses bêtises. Par ailleurs, si on vous interdit aussi le chewing-gum à l'école, c'est parce que nous, on vous voit et voir 30 personnes en train de mâcher du chewing-gum, ça vous donne l'impression de faire cours à des ruminants et c'est pas très joli. Et par ailleurs aussi, quand vous mâchez du chewing-gum, vous êtes tout centré sur votre vieux chewing-gum qui est en train de perdre son goût minute après minute et c'est comme si vous étiez en train de sucer votre pouce ou d'avoir une petite tétine. Et notre but à nous, c'est de vous faire sortir un peu de vous-même, de regarder le monde autour, d'apprendre des choses et pas de vous centrer et de vous recroqueviller sur votre petit chewing-gum. Donc, pas de chewing-gum à l'école, et puis collez-le sous la table, parce qu'ensuite, ça fait des vrais souvenirs.
Alors, c'est une blague, hein, bien entendu, cette idée de coller son chewing-gum sous la table, parce que c'est dégoûtant, nous sommes d'accord. Mara Goyer, vous pourrez trouver la liste de ses livres, essais ou fictions sur le site des Petits Bateaux. Quant aux chewing-gums qui reprennent du goût, moi, ma sœur, ça fait bien longtemps, elle collait son chewing-gum le vendredi soir Sur un mur de la gare Saint-Lazare, elle repérait bien l'endroit, le récupérait le lundi matin et elle disait qu'il avait repris du goût. Vous imaginez bien que je n'ai pas osé raconter cette histoire au professeur à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, spécialisé en microbiologie cellulaire, qu'est Pascal Cossard.
Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir où a-t-on le plus de microbes dans le corps. Merci, au revoir.
Alors Antoine, tu nous parles de microbes et j'imagine que tu as envie de nous dire des bactéries parce que les microbes, ce sont des organismes qui sont petits, que tu ne peux regarder qu'avec ton microscope. Et le mot microbe, c'est pas un mot que j'aime beaucoup parce que le mot microbe, il veut dire beaucoup de choses. On peut parler de microbes quand on parle de bactéries, on peut parler de microbes quand on parle de petits parasites, quand on parle d'amibes, etc. Donc, je vais plutôt considérer que la question que tu me posais, c'était où a-t-on le plus de bactéries dans son corps? La réponse, elle est claire, c'est dans l'intestin, c'est dans tout ce qu'on appelle le tractus gastro-intestinal. Et c'est l'endroit où vraiment ton organisme a besoin de ces bactéries pour maintenir ce qu'on appelle la bonne santé, la santé. Donc ces microbes vont jouer des tas de rôles, ils vont participer à la digestion, ils vont te protéger contre éventuellement une petite bactérie pathogène qui serait arrivée avec ce que tu es en train de manger, par exemple une salmonelle, une listeria. Ces bactéries jouent un rôle très important pour, stimuler le système immunitaire qui est présent dans l'intestin et qui fait que ce sont des garde-fous pour que, s'il y a un envahisseur, comme je le disais, arrive, le système immunitaire se met en route tout de suite. Et puis, ces bactéries qui sont dans ton intestin, elles fabriquent des tas de choses, des vitamines, des composants qui vont arriver dans le sang et puis arriver jusqu'au cerveau. Et donc, à l'heure actuelle, beaucoup de groupes de recherche travaillent sur le lien entre l'intestin et le cerveau. On sait d'ailleurs que ça va dans les deux sens, hein. On a des produits qui vont du cerveau jusqu'à l'intestin ou de l'intestin jusqu'au cerveau.
L'intestin, le deuxième cerveau, vous en pensez quoi de cette formule?
Je pense qu'elle est tout à fait précise parce qu'elle est maintenant documentée par justement ce que je disais, des résultats de nombreux groupes de recherche qui s'intéressent à savoir comment toute cette flore intestinale qu'on maintenant on appelle le microbiote participe justement à l'équilibre d'un organisme. Et je ne parle pas uniquement d'équilibre physiologique, mais je parle d'équilibre psychologique. Alors évidemment, cette flore intestinale, ce microbiote intestinal, est affecté par des tas de facteurs. Alors parmi les facteurs auxquels on pense tout de suite, c'est évidemment l'alimentation. Si vous donnez à manger à votre corps, en fait, vous donnez à manger à tout votre microbiote intestinal. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a par exemple le décalage horaire. Si on sait très bien que la flore intestinale est affectée par ce qu'on appelle le rythme circadien. Les bactéries ne sont pas exactement dans le même état la nuit et le jour. Et les décalages horaires favorisent ce qu'on appelle les dysbioses, c'est-à-dire des déséquilibres plus ou moins transitoires de tout ce microbiote intestinal. Je suis sûre que vous avez déjà entendu dire que les gens qui travaillent, par exemple, la nuit, ont souvent ou se plaignent souvent de maux d'intestin parce que, justement, cette flore est un tout petit peu déséquilibrée ou, en tout cas, elle a du mal à maintenir un équilibre.
Je voudrais vous dire que Pascal Cossard, donc professeur à l'Institut Pasteur et spécialisé en microbiologie cellulaire, était venue au Petit Bateau avant le début de la pandémie. Elle a écrit chez Odile Jacob « La nouvelle microbiologie ».
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Choisi par Jean-Baptiste Audibert sur la playlist de France Inter, le tout dernier, Stromae, Santé.
Bonjour, j'ai 7 ans, je m'appelle Ginette et je veux bien savoir. Il y a Napoléon Ier, Napoléon III, mais c'était qui Napoléon II? Au revoir et merci.
Mais c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Merci et bonsoir Ginette. Jean-François Coulon des Arts, vous avez écrit avec David Chantrane un Napoléon, les derniers témoins racontent. Ça se passe à Sainte-Hélène, évidemment. Et votre livre est aux éditions du Rocher. Là, c'est un petit peu en dehors de votre propos, mais j'imagine que vous le savez, cette histoire dont parle Ginette, Napoléon 1, Napoléon 3 et entre les deux.
Entre les deux, Napoléon 2. Alors, ce que je te propose, Ginette, c'est qu'on va faire un petit saut dans le temps. On va se remettre dans la journée du 20 mars 1811. Et là, Paris retient son souffle. Tout d'un coup, il y a un coup de canon. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a 20, il y en a 21. Et il y en a 22. Et au 22e coup de canon, les Parisiens exultent puisque Napoléon vient d'avoir un fils. Un fils et 100 coups de canon pour un fils, c'était 21 pour une fille. C'est un fils, 100 coups de canon. C'était comme ça. Et donc, on va l'appeler Napoléon II. Et Napoléon II, et son papa, c'est Napoléon Ier. Et sa maman, c'est Marie-Louise d'Autriche, que Napoléon a épousé l'année d'avant, puisque la pauvre Joséphine, qui était la femme de sa vie, ne pouvait plus avoir d'enfant. Or, il lui fallait un héritier mâle, il fallait assurer la lignée, donc on a décidé d'épouser soit une princesse russe, soit une princesse autrichienne, c'est l'autrichienne qui a gagné. Donc voilà,
quand
Napoléon...
Quand vous dites « on », il y avait tout un service qui s'occupait de...
Il n'y avait pas tout un service, mais c'était Napoléon a hésité, et puis le tsar a été d'accord pour lui donner une de ses sœurs, mais il y avait à la cour du tsar un parti anglais très fort, qui finalement l'a fait fléchir. Donc les Autrichiens, qui s'étaient fait battre deux fois par Napoléon, se sont dit, si on rétablit des liens de famille, on risque beaucoup moins. Donc c'est tombé sur la princesse autrichienne. Napoléon pouvait donc dire, en parlant de Louis XVI, mon oncle, et de Marie-Antoinette, ma tante, puisque Marie-Antoinette était la tante de Marie-Louise. Donc voilà. Donc Napoléon II, c'est pour Napoléon II, roi de Rome, en 1815, finalement, il a 4 ans, la dernière fois qu'il voit son père, et il va être élevé à la cour de Vienne, il va s'appeler successivement le prince de Parme et le duc de Reichstadt, et il va mourir très tôt, puisqu'il va mourir en 1832, le 22 juillet, d'une pneumonie, et il va mourir dans le lit à Schönbrunn, que son père occupait en 1809, quand il venait de battre les Autrichiens. Il avait choisi cette pièce du château à Schönbrunn parce que c'était une des rares pièces qui avait une cheminée. Et Napoléon était frileux. Et son fils, donc, va mourir dans ce lit-là. Napoléon II.
C'est hyper triste, en fait. Il congédie Joséphine, qu'il aimait, c'est ça que vous nous
absolument,
avez dit, Jean-François
Coulon-Lézard.
Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Enfin, elle ne pouvait pas. Elle avait des enfants,
voilà,
mais
elle ne pouvait. Elle ne pouvait pas lui en donner.
Elle ne pouvait pas avoir d'enfant avec Napoléon, donc il se remarie avec une organisation un peu politique pour avoir des enfants. Il a un fils qui meurt.
Et il a un fils qui meurt en 1832, mais qui ne verra plus son père. Il se souvenait de son père, il avait 4 ans la dernière fois qu'il a vu son père. Mais Napoléon n'a pas eu que ce fils. Napoléon a eu un fils, le comte Léon, avec une comédienne, hein, mademoiselle Éléonore de la Plaigne. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir des enfants. Ce que Joséphine lui disait toujours, moi j'en ai 2, toi t'en as pas, c'est qu'il y a un
ça
problème.
Vient de toi.
Ça vient de toi. Et puis après, il a eu, avec Marie Valeska, qu'il a beaucoup aimé, il a eu aussi un fils. Et là, il s'est dit, moi ça marche, tout va bien, c'est Joséphine. Donc d'où la rupture avec Joséphine, dont le remariage, etc. Et ça, si la famille impériale revenait au pouvoir, ça serait Napoléon V aujourd'hui.
Ben c'est qui le 4 ?
Ah ben, le 4, c'est le fils de Napoléon III.
Ah d'accord.
Qui lui a été tué, comme vous le savez, en Afrique du Sud, par les Zoulous. Très jeune aussi.
Jean-François Coulon-Désart a écrit avec David Chantraine « Napoléon, les derniers témoins racontent » aux éditions du Rocher. C'est absolument passionnant. Et puis, vous avez jusqu'au 19 décembre prochain les Parisiens pour aller à la grande halle de la Villette voir l'exposition Napoléon. Les éditions Paul Sen Jeunesse ont édité 30 destins de marins. Le livre est superbe, illustré par Emmanuel Algan et écrit par Victoria Jacob, à qui je tire mon chapeau, car ce n'est pas facile de faire court. Elle raconte chaque destin en 2 pages. J'ai rencontré celui d'Anaël Marot qui ramasse les déchets le long du littoral en kayak. Et j'ai découvert l'histoire de Joshua Slocum, né en 1844 au Canada, engagé à 14 ans comme cuistot sur un voilier en partance pour l'Europe. À 25 ans, il est nommé capitaine. Quand en 1887, sa femme Virginia, avec laquelle il a eu 7 enfants, meurt, il plonge dans une profonde dépression. Que fait-il pour s'en sortir ? Il retape comme un acharné un vieux bateau de pêche et se lance le 2 juillet 1895 dans un projet qui n'a jamais été réalisé, un tour du monde en solitaire, et en route, il vit en pratiquant le troc. Un jour, un homme lui refile des clous, des vrais clous de tapissier. C'est une arnaque, que peut-il en faire ? Sauf que quelques temps plus tard, il est attaqué par des pirates. Il ne peut pas se défendre seul sur son bateau. Il est cuit. Quand il a l'idée de jeter les clous sur le pont, qui rentre bien profondément et bien douloureusement dans les pieds des pirates. Joshua Slocum est sauvé. Il rentrera le 27 juin 1898. Son tour du monde aura duré 3 ans. Il repartira à 65 ans, direction l'Amérique du Sud, mais on ne le reverra plus jamais. Il disparaîtra dans le triangle des Bermudes. Les éditions Paul Sen, 30 destins de marins. Podcaster ces petits bateaux par franceinter.fr. Vous pouvez aussi tout simplement les réécouter. Renan Mahé, Stéphane Combe, Marjorie Devoucoux, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30.